10h41 dans le Point de Max, 418-971-1021 par texto. N'hésitez jamais à réagir, à poser vos questions. C'est toujours un plaisir de vous lire et des fois d'amener vos commentaires et vos questions en ondes quand ça adonne. C'est toujours le fun. Georges Mercier, analyste politique, est au bout du fil comme tous les jours à 10h40 depuis une semaine et pour le reste de la semaine. Georges Mercier, salut!
Salut Max!
On aura finalement attendu jusqu'à pratiquement la dernière minute. Moi, quand je me suis couché hier, ben je me disais, bon, ben on va se lever demain matin puis il y aura des tarifs en vigueur de 50% sur un paquet de produits canadiens. Mais je me suis couché trop tôt parce qu'à 22h15 à peu près, Donald Trump a annoncé qu'on repoussait l'entrée en vigueur de ces tarifs-là de 3 jours. On n'a aucun détail, mais Trump fait allusion dans son message sur True Social au pipeline Keystone XL, qui était un projet dont on parlait il y a quelques années, dont on parlait plus vraiment. Puis là, on semble comprendre que dans le deal, puis en passant, Donald Trump parle d'un deal, mais dans le communiqué de Mark Carney, on parle d'avancer, mais jamais d'entendre sa table. Fait que c'est ça. En gros, on sait vraiment pas grand-chose. On sait pas qu'est-ce qui a permis qu'on repousse ces tarifs-là de 3 jours, Georges.
Non, je pense que c'est bien de dire qu'on ne sait pas grand-chose. Évidemment, le gouvernement fédéral nous dit que c'est une négociation, nous n'allons pas négocier en public, mais viendra un moment, Max, où les Canadiens vont devoir être informés de ce qui se trame en coulisses, là, les Canadiens et les Québécois, parce que comme je l'ai dit souvent, il va y avoir des arbitrages à faire dans cet accord commercial-là avec les Américains pour être en droit de savoir qui on privilégie au détriment de qui. Maintenant, c'est la question du pipeline Keystone XL qui doit partir de l'Alberta pour se rendre au Nebraska pour mieux finalement acheminer le pétrole canadien vers les États-Unis. Ça, c'est vraiment intéressant parce que je suppose que dans la tête de Mark Carney puis de l'équipe de négociation, la grosse question qu'on se pose, c'est si on veut maintenir nos lignes rouges sur la gestion de l'offre, si on veut vraiment une baisse des droits de douane sur l'automobile pour protéger l'industrie en Ontario, qu'est-ce qu'on peut donner à Donald Trump? Comment est-ce qu'on peut rendre un accord plus acceptable pour lui, pour que lui-même puisse se retourner devant les Américains puis leur brandir une victoire? Mais il y a une ambition du président américain qui est assez claire, celle-là, là, ça ne change pas d'avis là-dessus, c'est de faire des États-Unis, de l'Amérique, une super puissance énergétique. Est-ce que c'est possible qu'on ait eu l'ingéniosité au niveau d'Ottawa de promettre à Donald Trump qu'on allait ressusciter ou l'aider à ressusciter ce pipeline-là qui pourrait amener des centaines de milliers de barils de pétrole aux États-Unis pour lui donner un anane, finalement, qui satisferait une de ses ambitions politiques? C'est possible. Si c'est le cas, ça me semble une bonne idée. C'est-à-dire, de la part de, pas qu'on soit pas au compte de pipeline, c'est pas ça la question, mais stratégiquement, ça me semble intéressant. Maintenant, il y a un immense paradoxe, Max, dans toutes ces négociations commerciales-là, puis la question du pipeline l'exemplifie bien. C'est quoi le paradoxe? C'est qu'au final, les provinces qui pourraient vraiment aider le Canada à contraindre les États-Unis sont au même moment les provinces qui souffrent le moins des nouveaux droits de douane, à savoir la Saskatchewan et l'Alberta avec le pétrole et la potasse. Parce que tu noteras que les Américains sont très bons hein, pour exempter les droits de douane, les choses dont ils ont vraiment besoin, la potasse, le pétrole. Et donc, au même moment, les provinces qui pourraient vraiment nous aider, par exemple en mettant une taxe sur le pétrole albertain ou en limitant certaines exportations, ce qui serait une option nucléaire, mais ce qui quand même là serait faire preuve de force dans les négociations, ces provinces-là ont aucun intérêt à le faire. Donc là, on parle beaucoup d'unité canadienne, d'unité entre les provinces, et je me demande jusqu'à quand ça va durer, cette genre d'unité de façade-là, lorsqu'on se rendra compte que ce qui se passe peut-être derrière les portes closes, ben, c'est qu'on privilégie certaines provinces au détriment d'autres, puis que certaines provinces, peut-être le Québec, vont avoir à subir les coûts d'un éventuel accord commercial. J'ai très hâte de voir.
Mais d'ailleurs, Christine Fréchette, la première ministre du Québec, qui est passée devant des journalistes ce matin, puis montrait de l'inquiétude. Puis en gros, ce que Christine Fréchette a dit, ben c'est à peu près ce que nous autres on dit. Ouais, ben OK, tant mieux, c'est repoussé de 3 jours. Mais on n'a aucune idée de ce qui est dans le deal. Même Christine Fréchette a aucune idée de ce qui serait dans le peut-être deal. Parce que comme je disais, Trump parle d'un deal. Mark Carney parle d'avancer dans les négos puis qu'on continue de travailler. Mais le point étant que Christine Fréchette, la première ministre du Québec, et donc je prends pour acquis que les autres premiers ministres à travers le Canada non plus, il n'y a personne dans les différents paliers provinciaux, dans les différentes provinces, il n'y a personne qui sait ce que Mark Carney négocie puis ce qu'il offre comme concession. Puis les provinces ne sont pas tenues au courant, même après que Donald Trump ait dit qu'il y avait un deal sur la table.
Oui, non. Puis le gros problème, c'est que peut-être que le fédéral va offrir aux Américains des choses qui impliqueraient des modifications législatives ou réglementaires au Québec. Donc, on engage le gouvernement québécois avant même d'avoir son accord. Honnêtement, là, c'est une vraie joke, cette affaire-là, Max. Surtout dans le contexte actuel où Christine Fréchette nous sort des publicités de campagne où on la voit rencontrant des chefs d'État aux quatre coins du monde, mais un peu partout dans le monde, où elle tente vraiment de se présenter comme celle qui serait capable de défendre les intérêts du Québec à l'international. Mais je suis désolé, mais en ce moment-là, notre relation internationale la plus importante, c'est celle avec les Américains, et Mme Fréchette n'est pas capable d'avoir un accès suffisant aux négociations d'Ottawa pour pouvoir dire aux Québécois ce qui se passe. Ce n'est pas un signe de force, ça. C'est même quelque chose d'humiliant là-dedans, finalement. Bon, on se targue d'avoir nommé une émissaire aux négociations qui assisterait aux délibérations. D'accord, mais au final, il faut aussi que le Québec puisse avoir un pouvoir décisionnel. Et la première ministre ne pourra pas, en même temps, nous dire qu'elle veut revamper la politique étrangère, la politique de relations internationales du Québec, afficher notre autonomie, tout en ne parvenant pas, dans les négociations les plus importantes, à faire entendre sa voix et à défendre concrètement nos intérêts. Donc, il y a un gros, gros problème ici pour Christine Fréchette. Je ne sais pas si c'est encore percolé chez les électeurs, mais moi, ça me semble élémentaire.
Georges Mercier, le Parti conservateur du Québec qui a dévoilé déjà ce matin sa plateforme électorale avant même le début de la campagne qui va commencer dans à peu près une semaine, dans une dizaine de jours, dans ces eaux-là. D'ailleurs, Éric Duhaime qui est toujours là, devant les journalistes actuellement. C'est une bonne idée, ça, de vouloir donner le ton en dévoilant dès le départ ta plateforme électorale. Moi, mon petit 2 cents, la stratégie derrière, c'est peut-être après ça de pouvoir lancer le message à toutes les fois qu'un parti dit quelque chose puis que ça ressemble à quelque chose que toi t'avais, de dire voyez, ils ont volé notre idée.
Ouais, ben regarde comment les derniers jours se sont déroulés. Là, je pense qu'il faut juste dire qu'on est en campagne. Je sais pas parce qu'il n'y a pas de panneau de pancarte sur les poteaux qu'on n'est pas en campagne. Là, elle est commencée, la campagne électorale. Mais c'est quand même une game d'endurance. Et là, le problème pour les conservateurs, c'est que s'ils dévoilent trop de choses aujourd'hui, c'est pas clair qu'ils vont être capables de dominer ou d'accaparer l'attention médiatique pour les jours qui suivent. Puis il reste plusieurs semaines avant le scrutin. Donc si on en donne trop maintenant, peut-être qu'on va s'essouffler vers la fin. Et on sait que souvent, les électeurs sont beaucoup plus à l'écoute vers la fin d'une campagne électorale qu'au début d'une campagne électorale. D'un côté, peut-être qu'on voulait avoir l'espace pour dire ce qu'on avait à dire dès maintenant, pendant qu'il y a encore de l'espace médiatique à occuper. Donc, un positif comme un négatif, je ne veux pas préjuger la qualité de la stratégie. Mais là, ce qui est intéressant quand même, c'est le contenu des promesses du Parti conservateur, où on aura peut-être l'occasion d'en parler, Max.
Oui, bien, allons-y. Puis notamment, puis c'est drôle parce que c'est ce qui m'a intéressé, parce que j'ai comme fait, l'idée de doter le Québec d'une constitution, ça, on savait que le Parti conservateur du Québec était pas contre ça, bien au contraire. Mais quand on commence à parler de doter le Québec de son hymne national, je me suis comme dit, OK, là, on veut aller voler des votes à qui, là? À CAQ, au Parti québécois? Moi, de plus en plus, puis en fait, moi, je suis persuadé que dans l'éventualité d'un référendum sur la souveraineté, puis là, évidemment qu'Éric Duhaime dira jamais ça en campagne pour pas donner des munitions au PQ, mais je suis persuadé que dans l'éventualité d'un référendum, moi, je pense qu'Éric Duhaime est un souverainiste et rejoindrait le camp du oui, puis ce qui est dans la plateforme aujourd'hui du PCQ, me pousse encore plus à croire ça.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Éric Duhaime veut clairement se placer dans le camp des Bleus. Bon, c'est quoi le camp des Bleus? C'est les gens qui ont l'intérêt national du Québec à cœur, bon, qui se soucient vraiment de notre identité, de notre capacité à continuer dans l'existence. Puis ce qui est quand même drôle ici, Max, c'est que le Parti conservateur a un avantage de taille sur tous les autres partis au niveau des communications publiques, c'est qu'il n'a jamais été au pouvoir, puis à peu près jamais vraiment été représenté à l'Assemblée nationale. Donc, lorsque eux promettent quelque chose, ils peuvent vraiment dire « on n'a jamais été là, on l'a jamais essayé ». Donc, lorsque Duhaime veut mettre de l'avant, c'est ce qu'il fait en ce moment, une stratégie d'autonomie provinciale plus forte, c'est où vraiment on tiendrait tête à Ottawa, bien, contrairement à ce qu'on pourrait répondre à la CAQ, lorsqu'ils nous disent ça, à savoir, bien, vous avez été là pendant plusieurs années, vous n'avez pas réussi, pourquoi on vous ferait confiance maintenant? Les conservateurs peuvent, eux, dire, bien, écoutez, on n'était pas là, on a peut-être des manières plus crédibles, des méthodes plus fortes pour y parvenir. Donc, déjà, un bonus pour les conservateurs, ils n'étaient pas là, ils ont l'avantage
de l'innocence. C'est la CAQ de 2018, ça, dans le fond.
Oui, mais peut-être qu'on a tiré les leçons aussi. Moi, l'hymne national, je trouve que c'est une excellente idée. Tu sais, mais affirmer l'autonomie du Québec, c'est pas seulement aller chercher des pouvoirs dans des compétences, c'est pas aller chercher plus de compétences réglementaires ou de pouvoirs formels. C'est aussi concrétiser l'identité québécoise, nous doter, je sais pas qui l'écrirait, je sais pas si elle serait bonne, ça, c'est à voir, mais nous doter d'une hymne nationale, ce serait un élément fort d'intégration nationale, c'est le genre d'affaires qu'on pourrait apprendre aux enfants aux primaires. Bon, tu vois, ça pourrait être une bonne chose pour aller combler un vide. Maintenant, sur la Constitution, on va avoir les mêmes problèmes que la CAQ, là, parce que ça va être un problème de légitimité démocratique. Est-ce qu'on peut adopter une Constitution au Parlement plutôt que, disons, dans un processus plus large, comme un référendum? Donc, même enjeu ici. Mais néanmoins, oui, c'est comme la CAQ de 2022 qui a tiré un peu, là, je dis un peu, les leçons de l'échec de la CAQ en la matière.
Dans une entrevue accordée au Journal de Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon indique que la souveraineté, c'est pas dans les priorités de la campagne du Parti québécois. Mmh. Paul Saint-Pierre Plamondon parle plutôt de contrôle des dépenses, de modèle d'intervention économique, du coût de la vie, de la santé, d'immigration et d'identité. Ça, c'est un bon move de se présenter comme un bon gouvernement d'abord, puis, regarde, une fois qu'on aura montré aux gens qu'on est capable de gouverner, ben là, vous nous ferez confiance pour un pays?
Ben, peu importe ce qui va se passer durant le mandat, c'est une bonne stratégie électorale. Quand on regarde les sondages, Paul Saint-Pierre Plamondon, bon, il n'est pas majoritaire, là, mais c'est quand même la personne dont on juge qu'il serait le meilleur premier ministre. Les gens veulent, je vais le dire comme ça, je pense que les Québécois veulent aimer PSPP, les Québécois veulent élire le PQ. Au même moment, les Québécois ne veulent pas de souveraineté pour l'instant et ne veulent pas de référendum. La job de Paul Saint-Pierre Plamondon durant cette campagne électorale-là, c'est pas de faire la pédagogie de l'indépendance du Québec, c'est pas de transformer des non en des oui, c'est d'abord et avant tout de tenir un gouvernement majoritaire. Dans le contexte actuel, ce qu'il fait, c'est tout à fait rationnel et stratégique. On va faire oublier l'irritant majeur du Parti québécois pour se concentrer sur d'autres éléments où là, on peut bel et bien amener des politiques, des propositions qui pourraient être intéressantes pour montrer aux électeurs qu'on n'est pas un parti avec un seul thème, un seul sujet, mono-sujet, mais qu'au contraire, on peut aussi former une équipe. Donc là, on veut changer la question. C'est plus « voulez-vous un référendum? » C'est « voulez-vous un gouvernement du Parti québécois? » Et on va vraiment se concentrer là-dessus dans les prochaines semaines. Moi, je suis pas sûr qu'on en parle de moins en moins en moins en moins de l'année passée.
Dans la même entrevue du journal, Paul Saint-Pierre Plamondon mentionne que le PQ n'allait pas proposer de baisse d'impôts aux contribuables, mais plus des mesures pour faire baisser le prix de l'essence, pour faire baisser le prix de la facture d'épicerie, veut favoriser aussi l'accès à la propriété. C'est-tu plus gagnant d'y aller comme ça, je vais dire morceau par morceau, tu sais, cibler l'essence, cibler l'épicerie, que d'y aller général avec une baisse d'impôts?
Là, il y a une bonne question pour le PQ, là, parce qu'ils ont quand même été sévèrement critiques des mesures plus électoralistes de la CAQ, notamment, parce qu'on a aboli les taxes sur certaines catégories d'alimentation, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas qu'ils retombent dans le même panneau que les caquistes, de donner de petites mesures qui ont une haute valeur symbolique, mais qui n'ont pas un gros impact sur le portefeuille des Québécois. Cela étant dit, c'est sûr que dans la tête d'un électeur, c'est plus clair, le prix de mon épicerie va baisser que je vais mon taux d'imposition marginal va baisser de 0,5%. Donc, il y a quand même quelque chose de plus symbolique ici. Cela étant dit, moi, je suis toujours un peu malaisé par rapport à ces politiques-là qui veulent donner plus d'argent aux Québécois d'une certaine manière. Les causes de nos problèmes économiques sont beaucoup plus structurelles. Ce type de mesure-là sur essence, épicerie, logement me semble être un genre de pansement plutôt que traiter le problème à sa source.
Le Parti québécois qui s'engagerait aussi à abolir carrément l'Agence Santé Québec qui a été mise en place dans les dernières années par Christian Dubé et la Coalition Avenir Québec. Tu penses quoi de cette idée-là?
Ben, ce serait un signal fort de rupture avec la CAQ. On comprend pourquoi ils le disent. Moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Là. Au contraire, je pense que dans la fonction publique, on devrait avoir un moratoire de 10 ans sur toutes les réorganisations, les changements de structure, parce que plus personne ne s'y retrouve. C'est très difficile de travailler et de prévoir à long terme si on ne sait pas si notre job, si notre poste va exister dans 6, 7, 8 mois, 1 an. Donc moi, je suis pas d'accord avec le fait d'abolir Santé Québec. Là, donnons la chance aux coureurs. Mais si on veut marquer des ruptures fortes avec la CAQ, c'est évidemment une bonne manière de le faire. Parce que c'est quand même le leg de Christian Dubé. Puis considérant l'échec des négociations avec les médecins, c'est aussi le leg de la CAQ en santé, Santé Québec.
En terminant, Georges, un petit mot sur une candidature du Parti québécois qui retient l'attention. On ne sait pas encore c'est dans quelle région, quelle circonscription, en fait, de la grande région de Montréal que ce sera. Mais Maître Marie-Claude Sarrazin, qui a été une avocate de la commission d'enquête publique sur le fiasco Saclic, c'est une grosse prise pour le PQ?
Et ça, honnêtement, Max, c'est vraiment un bon coup. Parce qu'une autre affaire qui a plombé la CAQ, c'est le fiasco Nordvolt, c'est aussi le scandale Saclic. Et que le Parti québécois parvienne à aller chercher quelqu'un qui a travaillé directement sur le dossier, ben, d'abord, c'est un bon signe, c'est un bon signal qu'on envoie aux électeurs. On a quelqu'un de compétent pour s'attaquer aux problèmes dans l'octroi des contrats, puis dans le suivi, finalement, des grands projets informatiques de l'État. Mais c'est aussi une manière pour Mme Sarrazin de dire, écoutez, moi, j'aimerais régler ça. Je ne fais pas confiance à la CAQ pour me donner les outils de le faire. Donc, c'est vraiment génial d'un point de communication publique pour le PQ d'aller la chercher. Et ça contribue encore, hein, à ce qu'on disait il y a quelques instants, à l'idée de PSPP de vouloir présenter aux Québécois l'image d'un bon gouvernement, parfois très technocratique, qui va régler des problèmes plutôt que, disons, partir dans ses, pas lubies, mais dans ses grands rêves référendaires.
Ce matin, mon collègue Marceau me parlait de ton ancienne carrière. Il a vu une vidéo passer où tu parlais des fonctionnaires qui travaillaient pas beaucoup d'heures, puis il voulait que je te demande, Georges Mercier, es-tu bien répandu, ça, les fonctionnaires qui travaillent un genre de 2 heures par jour?
Bon, je vais peut-être exagérer dans cette entrevue-là, mais tout ce que je voulais dire, le problème de la fonction publique, Max, c'est que la structure d'incitatif, là, qu'est-ce qui te motive à faire ta job, est super mal faite. Il y a une sécurité d'emploi, les attentes sont pas immenses. Dans ce contexte-là, c'est très difficile d'être performant. À moins d'être un saint, là, moi, être un fonctionnaire, je suis pas sûr que je travaillerais autant que je travaille en ce moment. Il faudrait s'attaquer à ça si on voulait améliorer notre fonction publique. C'est quoi le problème? Il y a des syndicats, il y a des groupes d'intérêt, puis il y a des règles qui sont très strictes. Donc là, on joue sur le facile avec des trucs comme Sortez Québec. On s'attaque à la structure. Il va vraiment falloir s'attaquer à qu'est-ce qui motive un employé à travailler. Et tant qu'on ne réformera pas ça dans la fonction publique, je ne pense pas qu'on aura la fonction publique la plus efficace qu'on peut avoir.
Georges Mercier, analyste politique, toujours un plaisir. On se reparle demain matin, 10h40, dans le Point de Max.
À demain, Max.
Salut, Georges Mercier, mon analyste politique préféré. Au retour, c'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot.
Le Point de Max.